Bonsoir, donc je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste au journal Sud-Ouest et je suis très heureux ce soir d'animer cette rencontre avec Eric Orsenna. On ne vous présente plus, mais je me dois quand même de rappeler qui vous êtes, puisque c'est l'exercice. Donc, commencez par dire que vous êtes écrivain, que vous avez reçu le prix Goncourt en 1988, je crois, pour l'exposition coloniale.
Il y a 31 ans.
Déjà.
Donc, ça dégrade, mais...
Vous étiez adolescent. Vous avez une vie très, très multiple. D'ailleurs, assez à l'image du sujet de votre livre. Vous avez été conseiller culturel de François Mitterrand, conseiller d'État, vous êtes académicien, vous avez présidé l'École nationale du paysage. Vous avez écrit sur la science, sur les lettres, des biographies, des contes. Une biographie d'un texte sur Jean de La Fontaine il y a quelques mois et tout récemment paru chez Stock, donc au mois d'août, Beaumarchais, un aventurier de la liberté. C'est un livre très agréable à lire, très enlevé, très précis, on apprend beaucoup. C'est justement la première question que je voulais vous poser, parce qu'on apprend que Beaumarchais, on connaît globalement le Beaumarchais pour son œuvre et pour son travail d'écrivain. On découvre en lisant ce livre qu'il fut aussi agent secret, horloger, maître de musique, militant pour le droit d'auteur, éditeur de Voltaire. Personnellement, j'ai découvert tout ça en lisant votre livre. Est-ce que vous, quand vous... vous lancez dans ce projet de biographie de Beaumarchais, vous savez ça déjà?
Alors, bonjour. Il se trouve que j'avais envie d'écrire sur le XVIIIe siècle, parce que j'avais écrit deux biographies sur le XVIIe, le jardinier de Louis XIV, le nôtre, et puis La Fontaine. J'avais écrit sur le 19e, puisque à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur. Donc, j'avais essayé d'apprendre deux, trois trucs en biologie. Et il restait le 18e. Et donc, je me disais, qui dans le 18e? Comme il reste d'ailleurs quelque chose sur le 16e. Mais on en parlera.
Mmh. Oui.
Et le 18e, alors, il y avait le choix, puisque c'est des personnages incroyables. Et qui sont tous d'une vitalité invraisemblable, correspondant à ce siècle, qui est d'une vitalité incroyable. Le siècle qui commence, ce 18e siècle, qui commence vraiment à la mort de Louis XIV, c'est-à-dire 1715. Si on prend la régence, tout ça, etc., bon, ça commence en fait quand naît Beaumarchais. J'avais le choix entre qui? Entre Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, des gens invraisemblables. Et ça, c'est pour les Français. Mais il y a d'autres gens dont on va parler. Le librettiste de Mozart à Ponte, qui est un type invraisemblable. Casanova, tout ça. Et pourquoi j'ai choisi Beaumarchais? Parce que il y avait un personnage magnifique qui avait le même éditeur que moi, Fayard. C'est Maurice Levers, le grand spécialiste de Sade et de Beaumarchais. Mais spécialiste à l'universitaire puissance 18. C'est-à-dire, moi, je fais 150 pages grâce à lui, parce que lui, il en a fait 3 fois 900. C'est-à-dire, demi-journée par demi-journée, on sait exactement ce qu'a fait Beaumarchais. Donc, ce n'est pas une biographie que j'ai tentée, c'est une promenade. Promenade dans sa vie, et une promenade dans sa vie qui incarne le 18e, qui est ivre de toutes les libertés. Et puis, il y avait un autre livre de quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui s'appelait Starobinsky, et qui avait écrit un livre qui s'appelle « L'invention de la liberté ». Dans une merveilleuse collection qui n'existe plus chez Skira, où il y a eu par exemple un texte merveilleux de Georges Duby, L'Europe des cathédrales. Donc, si jamais vous pouvez trouver des exemplaires de cette collection, et comme chez Mola Yatou, vous pouvez forcément leur demander. Et donc, c'était des textes très illustrés. Donc, j'avais envie de réfléchir à la liberté. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le 18e ? C'est la bascule entre, dans un premier temps, une ivresse de toutes les libertés nouvelles et qui vont aller vers la terreur et la révolution. C'est le passage de l'un à l'autre. Et en tant que romancier, moi, j'aime bien incarner dans des personnages et qui, si possible, incarnent dans des unités de lieu et des unités de temps. Donc, Beaumarchais, qui m'a intéressé dès le début, que je connais assez bien grâce à Maurice Levers, connaît assez bien, c'est qu'il naît en 1732, c'est-à-dire au moment où le 18e a pris son essor de toutes les libertés. La liberté politique, puisqu'on commence à se dire que, bon, le monarque absolu, c'est pas possible. La liberté de savoir, puisque c'était le poids de l'Église, et là commencent les grands savants, après Galilée, Newton, etc. La liberté économique, parce que les entrepreneurs prennent de plus en plus d'importance, c'est la nouvelle agriculture, les physiocrates, etc., etc., vous voyez. Et puis, évidemment, la liberté personnelle. Alors, on n'avait pas attendu le 18e pour faire l'amour, mais là, le libertinage devient une valeur. Et toutes ces libertés sont incarnées dans ce personnage qui naît en 1732. Et ce qui m'a frappé en réfléchissant un tout petit peu, il naît donc au bon moment, puisque c'est le moment de cette ivresse de la liberté, et il naît dans une bonne géographie, parce que je me suis rendu compte que il naît au cœur de Paris, dans les Halles, à 300 mètres de l'endroit où, un siècle avant, était né Molière. C'est-à-dire que quand il sort de chez lui, il est plongé dans la comédie humaine. Et que, évidemment, qui vont nourrir tous ces personnages. Nourriture qui sera complétée par de rares voyages, dont le voyage à Madrid, qui donnera, un peu en changer, en mettra à Séville, évidemment, le barbier. Et puis, il naît dans une bonne famille, puisque je me suis demandé comment résumer quelle était l'originalité de cette famille par rapport à des tas d'autres familles que nous avons pu connaître. C'est une famille où l'on gronde peu. On préfère être heureux. Et il naît entouré de 5 sœurs. 5 sœurs qui l'adorent, évidemment. Il est le petit roi. Et dans cette famille, un peu à l'allemande, tout le monde joue de la musique. Donc, vous voyez, c'est le bon moment, le bon endroit, la bonne famille. Et à partir de là, il y a un socle. Et quand on a, évidemment, ce talent, un travail hallucinant, une activité incroyable, c'est vraiment, vous savez, le terme qu'on emploie beaucoup maintenant de résilience, mais lui, c'est incroyable. Il est condamné, ruiné, il repart, il fait ça. Donc c'est l'incarnation même de la vitalité. Voilà. C'est pour ça que c'était, vous voyez, ce qui était intéressant, c'était l'incarnation du siècle. Et on va reparler d'un moment précis où le siècle bascule, et il bascule dans le passage d'une pièce de théâtre, Le mariage de Figaro, à un opéra, Les Noces. Et je disais à mes amis que j'étais au Livre sur la Place récemment, samedi dernier, et on a raconté ce passage avec des musiciens des Arts Florissants, avec qui je travaille, et c'est vraiment, en 2 ans, c'est le passage. Parce que sa pièce, on en parlera, le mariage, est complètement interdite dans l'Europe entière. Voilà. Mais là, arrêtez-moi parce que je peux parler.
Alors, peut-être revenir. Vous parliez de la famille dans laquelle il naît et il grandit. Vous disiez qu'il est entouré de 5 sœurs, qu'il est adulé. Et vous faites l'hypothèse que c'est peut-être l'origine de la confiance en lui-même qu'il a habité pendant toute sa trajectoire, parce que c'est quelqu'un, quand on lit votre...
C'est vrai, donc
on est fasciné par
c'est une confiance. Alors ça, c'est une morgue. Tout le monde disait qu'il était plein de morgue, parce qu'il était beau mec en plus, donc très vite, il était là. Et donc, confiance absolue en lui. Il y a une première anecdote qui est quand même incroyable, incroyable. Il fait des études, bon, très bien, et puis sa famille s'ennuie de lui. Donc, le font interrompre ses études et il devient apprenti chez son père. Alors, ça se passe mal parce qu'il est quand même un peu escroc, le garçon. Et de temps en temps, il vend les mondes qu'on lui a confiés pour qu'on les répare. Alors, son père l'engueule, il le vire. Les sœurs lui disent « si tu fais pas revenir notre frère, nous on fait la grève de je sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est pas possible », donc il revient. Et alors il se met au boulot, parce que c'est un immense travailleur, et il trouve un système d'améliorer le mécanisme des montres. Alors je sais pas s'il y a des horlogers ici, mais qui s'appelle l'échappement. Alors, j'ai pas voulu être en détail, mais c'est assez marrant parce que ce type s'échappera tout le temps. Et donc, il y a un mécanisme de l'échappement. Et il y a un client, le principal client, l'honneur de la boutique où on répare les montres et on les vend, qui est l'horloger du roi, le premier horloger du royaume. Il vient et naïvement, le petit Pierre-Augustin, il lui dit « Bon, ben voilà, il est là. Voilà comment ça marche, voilà ce que j'ai trouvé. » Le type dit « Ah oui, c'est très intéressant. » Et au bout d'un moment, on lui dit qu'il y a un article qui est paru, signé par l'horloger du roi, en disant « Voilà ce que j'ai inventé. » Fureur du petit gamin, 17 ans, qui dit « Mais c'est pas possible, comment c'est possible ?» Son père lui dit « Calme-toi, c'est l'horloger du roi, c'est le meilleur client, c'est normal, tu verras. » Pas du tout. Il rédige un rapport avec le dessin de toutes les pièces et les mécanismes qu'il avait inventés. Il l'envoie dans la France entière. Il se déplace pour aller plaider sa cause devant les académies des sciences régionales, l'académie des sciences parisienne. Il fait tellement de bruit qu'on fait un procès et que l'horloger du roi est battu par ce gamin. Vous voyez le mec? Il commence comme ça. Et alors, on parle de lui sans arrêt et il en profite pour aller vendre des montres ou à la famille royale. Mais il se dit, les montres, c'est pas suffisant. Parce que même si c'est des bijoux, il dit, on a un contact, mais ce contact, une fois que vous avez vendu deux montres, trois montres, et qu'il y en a une qui marche pas, vous allez réparer, vous n'avez pas de contact régulier avec la famille royale. Donc il dit, comment je pourrais faire pour m'installer au palais? Et il trouve un truc hallucinant, alors qu'il est un musicien amateur, juste amateur. Il réussit à se faire nommer, je ne sais à la suite de quelle manigance, professeur de musique des filles de Louis XV. Et il a 24 ans. Ça commence fort. Et la suite ne va pas nous décevoir. Donc imaginez, racontez ça, mais Netflix, c'est rien.
Quand vous évoquez son adolescence dans le livre, vous estimez que l'apprentissage, ça a été sa chance, d'une certaine manière.
Oui, parce qu'autrement, il aurait été dans le moule de l'ENA de l'époque, c'est-à-dire les collèges de jésuites, le moule, machin, etc. etc. Et puis, non, mais là, il est passé par les mains, par son chemin personnel. Et donc, il a toujours été comme ça. Et puis, c'est aussi la musique qui a été sa chance. Mais surtout, il a été très infidèle, on en parlera, sa vie personnelle, amoureuse. Il disait « Je suis amoureux par bouffer ». Donc, vous voyez, donc c'est moyen. Mais si vous voulez, je peux vous apprendre un nouveau mot. C'est quand même mon métier d'académicien, si vous permettez.
Oui, bien sûr.
Alors, aux curieux des relations humaines, conseillons deux ouvrages informés et savoureux, Charles Pinault Duclos, Mémoire pour servir à l'histoire des mœurs du XVIIIe siècle, et un trésor, le journal des inspecteurs de Monsieur de Sartine. Ce Sartine, avant de se purifier la tête en devenant un légendaire ministre de la Marine, avait exercé la charge de lieutenant criminel du Châtelet, puis de lieutenant général de police. C'est à ce titre qu'il rémunérait une foule d'inspecteurs, le tenant informé du moindre mouvement d'alcôve dans la ville de Paris et ses proches alentours. Après lecture et du fichage des personnalités concernées, ces rapports étaient transmis au roi Louis XV, lequel, dit-on, s'en délectait. Preuve, s'il en était besoin, que le voyeurisme passe souvent par la lecture. Et d'ailleurs aussi par l'oreille, on se rappelle avoir appris par l'affaire des écoutes que François Mitterrand prenait vif plaisir à tout apprendre de la vie très privée de certaines actrices pour laquelle il semblerait qu'il ait eu comme un penchant. Revenons au siècle qui nous importe présentement. Voici un extrait d'un de ses rapports concernant une demoiselle Lacroix, figurant attitrée dans les ballets de l'opéra. Le prince de Belozinski est parti depuis quelques jours pour l'Angleterre. Malgré toutes les promesses qu'il avait faites à la princesse, son épouse, de ne plus voir la demoiselle Lacroix, Vous savez, c'est des phrases bien connues dans les couples. J'ai changé. Il lui rendait encore souvent des visites. Mais je crois qu'à son retour, il ne verra plus parce qu'il a découvert que M. de Beaumarchais, jeune homme fort aimable, fils de M. Caron, horloger du roi, la guerluchonnait souvent, rejoignant dans ses pratiques M. de Bussy, mousquetaire, depuis qu'il a quitté Mademoiselle La Forest, également du corps de ballet. Pour parfaire votre information, sachez que le guerluchon est officiellement l'amant d'une femme mariée, mais que le sens du mot s'est étendu à toute activité intime, la plupart du temps rémunérée. Vous découvrez également que perdure dans certaines régions de France, non pas en Aquitaine, mais, m'a-t-on dit dans le Berry, le culte d'un saint guerluchon, dont les statues doivent être soit protégées, soit constamment renouvelées. En effet, ce saint, patron de la fertilité, est toujours représenté d'un attribut de taille, prouvant sa capacité. Et figurez-vous que certaines femmes en mal d'enfant viennent nuitamment racler le bois et même la pierre du dit attribut pour s'en faire moult décoctions dont elles espèrent grand fruit. Ne comptez pas sur moi pour détailler ces phrases, je me dois de respecter tant sa pudeur que la tranquillité de ses descendants, mais ma passion de la vérité m'oblige à dire que le sieur Caron fils, nouvellement veuf et pas encore Beaumarchais, nonobstant ses innombrables autres occupations, profitait de sa bonne mine pour ne cesser de guerluchonner ici et là, et pas seulement dans le corps de ballet.
Très bon aperçu du livre. Vous avez partagé ça avec vos amis académiciens, cette trouvaille
Le livre est paru quand ils étaient en vacances. La rentrée, c'est le 23. Donc, je vais peut-être me faire virer. Voilà, et on va voir. Enfin, nous avons quelques coquins, tout de même. Et puis, il y a un grand coquin qui est mort il y a quelque temps, qui était Jean Dau, quand même.
Jean d'Ormesson. Et votre ami.
Il était juste en face de moi, on faisait des grimaces et tout. Personnage, comme ça, c'était... Voilà, enfin, bon, ouais, c'est un compagnon magnifique. Mais il y en a d'autres. Il y a un merveilleux René de Obaldia qui a fêté le 22 octobre, c'est 100 ans. 22 octobre. Et alors, on se voit assez régulièrement et c'est un centenaire qui lève le coude. Et il adore le Bordeaux. Et une bouteille ne suffit pas. Alors, rituellement, il se lève à la fin de notre déjeuner, en étant un peu comme ça, et il me dit, tu vois, c'est l'âge. Et alors, je dois répondre, non, c'est le Bordeaux.
Alors, on parlait il y a quelques minutes de l'ascension de Beaumarchais, donc il commence comme horloger, il fait son coup d'éclat là auprès de Versailles, il finit par devenir maître de musique, et là, on sent une certaine insolence, il a un culot monstre. Est-ce que c'était quelqu'un qui était soucieux de sa respectabilité ou pas du tout?
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors, c'est assez... Non, il pense que être un familier de Versailles, c'est pas suffisant. Donc, ils disent comment je peux m'installer dans la société. Alors, il dit très froidement, il y a deux solutions. Un, être riche, et un bis, être noble. Alors, comment être riche? Eh bien, je vais me faire aimer par un financier. Donc, il prend le financier le plus important du temps. Et puis, il se fait apprécier par son intelligence, par son charme, et puis par sa capacité à animer des petites fêtes où il compose de la musique, il compose des petites pièces, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, il se dit, Caron, c'est moyen. Donc, il se marie, mais il loupe ses mariages. Parce qu'il se marie avec des femmes qui, au fond, sont moins riches qu'il ne pensait. Mais elles ont le bon goût de mourir vite. Ce qui le fait attaquer par la famille, parce qu'il pense qu'il a un peu accéléré, ce qui est, semble-t-il, faux. Mais enfin, bon. Et donc, il se dit, il faut que je pense par... que j'arrive par mes propres forces. Donc, il y a ce côté-là. Donc, il achète, via proche de sa première femme, une terre qui s'appelle... Marchais, Beaumarchais, tout ça, etc. Donc, il commence à s'appeler Caron de Beaumarchais. Et puis, il achète une charge qui donne la noblesse, qui confère la noblesse, grâce à un prêt de ce financier qui s'appelle Paris Duvernay et qui l'a pris comme une sorte de fils adoptif. Et à ce moment-là, il dit, il commence à être riche. Lequel Paris Duvernay fait des opérations énormes. Hein, c'est le principal. On l'appelle Paris Farine parce que il trafique sur vous savez, c'était la bonne façon de faire du fric, c'est-à-dire fournir les armées. Et comme il y avait des guerres tout le temps, quand vous fournissiez les armées, vous preniez des marges insensées, et donc on était assez comme ça, on gagnait beaucoup d'argent. Et il fait des opérations énormes, puisque il est par exemple le financier de l'école militaire à Paris. Mmh. Vous voyez, une opération immobilière qui est énorme. Donc il est dans ces opérations-là, et donc il lui donne de l'argent pour avoir ce titre. Et puis il achète aussi, vous savez qu'on achetait des charges. Parce qu'à l'époque, on avait déjà des problèmes budgétaires, mais on pouvait vendre des charges. Donc on vendait les charges, et comme ça, on trouvait un peu d'argent pour faire la guerre et pour diminuer la dette de l'État.
Ça veut dire que Beaumarchais, donc Pierre-Augustin Caron, devenu Beaumarchais, bouscule en fait l'aristocratie telle qu'elle est organisée en se faufilant comme ça.
Alors il se faufile. Et alors son idée, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai hésité entre deux sous-titres. Le premier sous-titre, c'était un aventurier de la liberté, parce que quand vous prenez le dictionnaire et quand vous voyez la définition d'aventurier, ça lui correspond tout à fait, parce que c'est personne qui cherche l'aventure par curiosité ou goût du risque, mais l'important, c'est ce qu'il y a entre parenthèses, parfois péjoratif. Là, on dit quelqu'un, c'est un aventurier, c'est un peu péjoratif. Donc voilà, donc il est un peu comme ça. Donc,
L'autre titre, c'était ?
Et l'autre titre, justement, l'autre titre, c'était un révolutionnaire malgré lui. Parce que il est tout sauf révolutionnaire. C'est-à-dire, cette société dans laquelle il vit, il a tout fait pour en occuper les premières places. Avec l'argent et avec le titre. Il a tout fait. Simplement pour lui, ce qui compte, c'est la noblesse, mais pas par l'héritage, par ce qu'il appelle le mérite, mais pour lui, le mérite, c'est le pognon. Alors, le critère peut être critiqué. Mais pour lui, comme il a gagné de l'argent, il l'a acquis, pour lui, c'est bien mieux que l'héritage. Et là, on est au cœur de sa contradiction, et qui est exactement, vous savez, l'histoire de la grenouille et du scorpion qui traverse la rivière, et puis la grenouille, vous connaissez l'histoire, la grenouille, on se trouve, il y a un incendie derrière, tous les animaux doivent fuir, et puis il y a une rivière. Et puis il y a la grenouille qui s'apprête à tranquillement fuir l'incendie en traversant la rivière. Et il y a un scorpion. Et le scorpion dit, s'il te plaît, mets-moi sur ton dos, comme ça, autrement je vais griller, mets-moi sur ton dos. Alors la grenouille lui dit, mais non, tu sais très bien que tu vas me piquer. Et donc, ça ira pas du tout. Et moi, non, je veux pas. Si, je te jure, regarde, je te jure. Et donc, le scorpion monte sur le dos de la grenouille, et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille dit, mais t'es complètement débile, on va mourir tous les deux. Mais je suis scorpion, je peux pas m'en empêcher. Et donc, il peut pas s'empêcher. Alors, est-ce qu'on raconte maintenant l'histoire? Et c'est là, on est au cœur du mariage de Figaro. Et des noces. Alors, est-ce qu'on raconte maintenant comme vous voulez?
Alors, peut-être que vous pouvez juste nous éclairer sur ce qui fait que, donc, au début des années 1770, Pierre-Augustin Caron, Beaumarchais, se pique d'écrire. Qu'est-ce qui fait que...
Alors, il a toujours écrit.
Oui, mais du théâtre?
Du théâtre.
D'accord.
Il a toujours écrit du théâtre.
Ah oui, des petites
piécettes, ouais, pour amuser les clients de son financier. Et puis, il a décidé de faire deux pièces qui sont des fours absolus. Alors, il n'est pas content, mais c'est quelqu'un qui essaye de rebondir. Il ne se prend pas la tête et il dit, voilà, qu'il déteste le chagrin, dit-il, parce que ça consume. Le chagrin consume. Il a des phrases, mais là, on a parlé du Guerluchon et c'est formidable. En amour, trop n'est pas même assez. Vous voyez le genre. Vous n'allez pas se marier avec lui, hein. C'est assez moyen. Alors, il annonce à tout le monde, avec ce culot invraisemblable, j'ai fait une pièce géniale. Géniale. Et alors, on est le 23 février 1775 à la Comédie Française, le rideau se lève, et au bout d'un quart d'heure, tout le monde tousse. Au bout d'une demi-heure, on commence à grogner. Au bout d'une heure, le tiers de la salle est parti. Et quand le rideau tombe, sifflet. Et les critiques se déchaînent et disent, en tout cas, une chose est sûre, ce type n'est pas fait pour le théâtre. Vous voyez, il y a... Enfin, je ne vais pas faire une ressemblance avec les critiques d'aujourd'hui, mais enfin, on peut se demander quand même. Et donc, là. Alors, il a cette phrase incroyable, de dire, oh là là, c'est pas ça, ou alors être accablé. Pas du tout. Il dit, cette phrase que j'adore, la cabale a faim, je vais la rassasier. C'est-à-dire que à 23 heures, il s'enferme chez lui.
Et il retravaille.
Il réécrit tout. Imaginez l'angoisse des acteurs. Parce que il paraît que vous réécrivez tout. Bah oui, bah alors comment est-ce qu'on fait, etc. Le rideau se lève le 26, c'est-à-dire le dimanche, trois jours après, sur le barbier de Séville, triomphe. Donc il y a tout bon marché là-dedans. Le culot,
ouais.
Le premier essai, ça marche pas, principe de réalité, la capacité de vitalité de revenir, l'immense talent, et c'est parti. C'est-à-dire qu'il est à la fois infiniment orgueilleux et infiniment humble parce qu'il constate. Parce que comme il est aussi dans le monde réel, il voit que de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. On racontera plus tard l'histoire des États-Unis, ou on peut le raconter maintenant.
Allons-y.
Parce alors,
que c'est alors, aussi, c'est une chose qu'on apprend dans, dans
alors,
le livre.
Oui, oui.
Bah, il a aidé les...
Non, mais il a aidé bien plus que Lafayette. Vous savez, j'étais un de ceux qui ont, qui ont lancé la reconstruction de l'Hermione. Donc Lafayette. Moi, j'étais nourri de Lafayette. Mais quand j'ai plongé dans l'histoire, je suis plongé dans l'histoire de Beaumarchais, et il est bien plus efficace que Lafayette. Lafayette, il a participé à deux, trois batailles. C'est très bien, sympathique, très glorieux, etc. Mais c'était un moment où la France aurait bien voulu soutenir les rebelles américains contre les Anglais, mais il ne voulait pas se fâcher officiellement avec l'Angleterre, qui restait une puissance incontournable. Et donc, Beaumarchais, à la fois parce que c'est sa conviction et en même temps parce qu'il dit il y a du pognon à se faire, dit c'est moi qui vais soutenir les rebelles. Donc il devient amateur. Il n'avait jamais vu la mer de sa vie. Jamais. Il va armer 40 bateaux. Il crée une société pour ça. 40 bateaux qui jouent à cache-cache avec la marine britannique pour aller apporter aux rebelles des armes, des uniformes, etc. Et il leur dit, écoutez, aux rebelles, il leur dit, écoutez, bon, vous n'avez pas d'argent pour l'instant, mais quand vous aurez gagné, vous allez me rembourser. Ce qui fait qu'il y a encore une dette de l'État,
parce qu'il a jamais été remboursé.
De l'État américain vis-à-vis de Beaumarchais. Alors, je suis dans une action vigoureuse de juridique avec, en tant qu'ancien conseiller d'État, pour aller un dossier que nous allons bientôt présenter à Trump.
Et alors, puisqu'on parle un peu de...
Avec un taux d'espérance de réussite, pour être franc, assez faible. Parce que je ne suis même pas sûr qui c'est. L'homme aux cheveux, machin. Mais, alors, je viens d'avoir une idée. Car on sait que le grand président Trump est un agent immobilier.
Yes.
Un promoteur. Et Beaumarchais a été aussi promoteur. Et comment il a été promoteur? Parce qu'il entend dire... Attends, ça, franchement, grâce à vous, merci, parce que l'idée m'est venue. Il apprend en 1787 que l'administration pense à fermer la prison de la Bastille. Il se dit, chouette, bonne opération immobilière en vue. Donc, il achète un hectare place de la Bastille. Et il se fait bâtir un palais place de la Bastille. D'après les estimations, c'est environ 10 millions d'euros. un palais, qui commence à faire visiter. Les travaux s'arrêtent en avril 89, c'est-à-dire en pleines émeutes, puisque c'est l'endroit où il y avait tous les artisans de Paris, dans tous les domaines. Donc, vous savez, la révolution commence avec la révolte des ouvriers, des papiers peints, réveillons, etc., etc. Il est en plein dedans. Donc, évidemment, tout ça est complètement laminé, machin, etc., etc. Il récupéra son palais 5 ans après, après des aventures invraisemblables qu'on n'aura pas le temps de raconter, parce qu'il aura, entre-temps, trafiqué 40 000 fusils. Enfin, c'est autre chose. Et donc, voyez le personnage.
Voilà. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, puisque vous parliez de l'aide qu'il a apportée aux insurgés américains, restons un peu sur son activisme comme ça à l'étranger. Il a aussi été, juste avant d'écrire le Barbier de Séville, agent secret au service du roi. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette
Alors, comme il faisait de temps en temps, il était en procès. Alors, il était en procès avec les héritiers d'une de ses femmes. Sauf que celui-là était haut placé dans la hiérarchie de la noblesse, etc., etc. Bref, il en faisait trop. Donc, il fallait qu'il se fasse pardonner. Alors, il a des grands moments comme ça où il se fait pardonner. Alors, se faire pardonner, il devient barbouze. C'est-à-dire, il va en Angleterre, parce que Angleterre, à Londres, c'était le repère de tous les gens qui en voulaient, pour une raison ou pour une autre, à la monarchie française. Et leur truc, c'était de préparer, comme on dit maintenant, une biographie non autorisée d'une personne royale. Et alors, évidemment, c'était soit Louis XV, soit après Marie-Antoinette. Alors, il disait, je vais faire une biographie. Et moi, j'ai connu ça. Parce que ce qui m'amuse dans les biographies, c'est de voir un peu les trucs. Quand j'étais jeune écrivain éditeur, et il y avait des vieux de la vieille qui m'avaient donné le moyen de gagner de l'argent en faisant rien du tout. Ils laissaient entendre qu'ils préparaient une biographie de Marcel Dassault. La rumeur montait. Il se faisait appeler par le secrétariat de Marcel. S'ils étaient assez connus, et donc on avait peur de la biographie non autorisée, ils se faisaient inviter au rond-point des Champs-Élysées, dans le bureau de Marcel, qui lui disait avec une voix un peu nasillarde que je ne vais pas imiter, il disait, oui, vous n'écrirez pas cette biographie. Il ouvrait son coffre, il y puisait des cachetons, et il lui disait, le reporter disait, je pense que, en fait, oui, c'était une mauvaise idée. Merci, monsieur Marcel. Donc, vous voyez, parce que c'est, la biographie, rien n'a changé. Donc, il a fait des tas d'opérations comme ça pour empêcher les ennemis de la monarchie de nuire. Et à ce moment-là, il revenait et on disait, bon, on efface vos fautes et on repart d'un bon pied. Sauf que 3 ans après, il recommençait un truc, donc il était obligé de redevenir barbouze.
Il avait beaucoup d'ennemis
Mais infiniment d'ennemis. D'abord, quelques maris.
Eh oui.
Ce qui est des phrases, vous voyez. Voilà. Vous savez, il y avait cette actrice américaine en disant, voilà, combien avez-vous eu de maris? Et alors elle répond, en comptant les miens.
Oh là, le micro s'emballe. Et alors, on disait, le Barbier de Séville, donc c'est...
Alors, le Barbier, c'est 75.
Voilà, mariage de
fille. Et alors, après, il y a une histoire qui me ravit. Mais me ravit, parce que c'est sans arrêt des histoires, c'est un rêve absolu. On est le 12 octobre 1780, à Versailles, dans les appartements royaux. Et une femme lit. C'est normal, c'est son métier, c'est Madame Campan, qui est la première femme de chambre de la reine, et en même temps lectrice professionnelle. Elle lit pour la reine, elle lit. Et elle lit à 2 personnes seulement, la reine et le roi. Marie-Antoinette et Louis XVI. Et elle lit un manuscrit dont on se demande s'il va pouvoir être représenté et s'il y aura l'autorisation. Alors, Marie-Antoinette adore, elle s'esclave, et Louis XVI vitupère. C'est pas possible, cette pièce remet en cause tout, la dignité, les gouvernements, jamais. À partir de là, pendant 2 ans et demi, il va y avoir une guerre entre 2 partis. Le parti mené par la reine, qui est favorable à la pièce ô combien, vous avez deviné, c'est la folle journée ou le mariage de Figaro. Et l'autre parti, celui du roi, qui dit pas question. Mais on commence les répétitions, la troupe arrive, enferme tout le monde, Beaumarchais est obligé d'aller une fois de plus se réfugier à Londres, il revient, il dit non, ça reprend, etc. etc., etc. Et puis il y a un aristocrate ouvert, le comte de Vaudreuil, qui dit écoutez, j'ai un château, moi, à Gennevilliers, venez chez moi. Et alors on commence les répètes, et puis on commence la représentation, tout le monde se disant à tout moment, la troupe peut arriver, nous enfermer tous. Et puis finalement, non. Et c'est un triomphe. Et c'est le mariage. Et alors, ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire commence, et ça, on est en 1784. La deuxième partie de l'histoire commence un an après, en 1785, à Vienne. Parce qu'il y a un musicien dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Mozart. Et Mozart, il a envie de changer les sujets de ses opéras. Parce que les machins, l'antiquité, tout ça, il y en a marre. Et donc, on lui parle de cette pièce interdite dans toute l'Europe. Interdite dans toute l'Europe. Et surtout à Vienne, par le frère de Marie-Antoinette, qui est l'empereur Joseph II. Interdit. Et Mozart dit, je veux, dit-il. Vous voyez que avec cette
d'autant
phrase,
que vous,
cette...
vous préparez un texte sur Mozart.
Mais, oui, parce que
le dialogue.
Oui, ben déjà, certains m'appellent Wolfgang. Et vous avez vu à mon physique comme ça. Et donc, il lui demande comment est-ce qu'on peut faire. Et il dit cette phrase incroyable, Mozart. Il dit cette phrase. Je veux mettre des notes sur cette histoire. Je veux mettre des notes sur cette histoire. C'est une phrase sublime. Sauf que c'est pas possible. Alors, un personnage va arriver qui va jouer un grand rôle dans la vie de Mozart après, puisque c'est Lorenzo da Ponte. Lequel Lorenzo da Ponte est le poète officiel à Vienne. Donc c'est lui qui va se charger de raboter les phrases les plus sulfureuses du mariage. Et comme ça, d'après la légende, durant l'été 1785, en 3 semaines, Mozart met les notes que l'on connaît sur la pièce, et c'est comme ça que le mariage devient les noces. Pourquoi ? Quelles sont ces phrases ? Alors, d'abord, le sujet du mariage que vous connaissez, c'est donc le mariage de 2 domestiques, et contrecarré par le comte, le patron des 2 domestiques, parce qu'il a des vues sur la fiancée, sur Suzanne. Avec cette histoire merveilleuse de ce personnage, vous savez, parce que le mariage, c'est la suite du barbier, et que Rosine est devenue comtesse, et qu'elle est délaissée, tout ça, etc. Enfin, c'est sublime, bien sûr. Et donc, il veut des notes comme ça. Donc, on est, voyez, dans cette situation comme ça. Je sais pas, on peut continuer encore, on a le temps. Et alors, donc, à partir, il y a des phrases. Alors, il y a déjà la situation de voir qu'on remet en cause le droit de cuissage. Parce que c'est ça l'affaire. C'est balance ton porc. Hein. C'est balance ton compte. C'est ça l'affaire. C'est MeToo. C'est exactement là. Mais il y a des phrases de ce Beaumarchais qui est donc, comme on l'a dit, tout sauf un révolutionnaire. Il y a des phrases invraisemblables d'insolence. Et il dit, à un moment donné, des places, du prestige, un rang, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. du reste, homme assez ordinaire.
Oui, c'est assis.
Cinq phrases qui remettent en cause le principe même de l'Ancien Régime, où on est né ou rien. Alors, on est né, vous savez, on est né. Moi, j'ai entendu dire, quand j'étais petit, dans ma famille, dit, un tel, elle est née.
Et justement, vous disiez que l'un des projets de Tite, ça avait été un révolutionnaire malgré lui. Quel a été son impact sur la révolution ?
Énorme. Énorme, parce que c'est des pieds. D'abord, c'est un moment où l'Europe communique. Fumaroli a fait un livre formidable sur l'Europe. C'était une conversation, parce que l'Europe cultivée par les Français, cultivée, bien sûr, par les Français, mais ça circulait beaucoup. Donc cette pièce était extraordinairement connue. Et donc, ça circulait. Et Danton, Robespierre, mais tous les révolutionnaires ont dit que ces cinq phrases-là ont été une sorte d'étincelle supplémentaire qui a mis le feu. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai tellement pris de bonheur. C'est que quand on est des chasseurs d'histoire, nous, écrivains. Et donc, quand vous avez une unité de lieu avec une unité de personnes... Là, et c'est le moment où, au fond, alors il y a eu plein d'autres causes, comme on sait, etc., etc., mais quand même, c'est le moment où le 18e bascule de la liberté à la révolution, incarné par un personnage. Et il y a un des biographes qui m'ont précédé, il y en a plein, mais qui a eu cette formule absolument magnifique. Beaumarchais ne pouvait pas être un révolutionnaire parce que c'était un homme gay. Et la gaieté est contradictoire. Les révolutionnaires sont des sombres. Regardez Mélenchon.
J'allais dire, vous n'êtes pas révolutionnaire, alors.
Ah, mais rien du tout. Moi, je suis typique social-démocrate, rapoter les gens. Voilà, j'adore que l'élan et de la gaieté. Et puis, les révolutionnaires sont super puritains. C'est pas possible.
Mais vous dire, dans une
toi,
sorte de recherche de pureté. Ouais.
Je vous redis, en amour, trop n'est pas même assez. Revenez chez vous avec cette feuille de route, s'il vous plaît.
Et alors, l'autre chose aussi, à peu près à cette époque, fin des années 1780, début des années 1790, Beaumarchais devient éditeur.
Alors, il vient éditeur Voltaire. Parce qu'il admire Voltaire, qui est le maître. Et franchement, chaque année, je relis un conte. Alors, il y a de l'indigeste chez Voltaire. Mais alors, les contes, relisez ça. Et alors, en complément de Voltaire, vous pouvez lire, dans la vraie version, Swift, c'est-à-dire Gulliver. Alors, je vais vous donner un exemple. Des voyages de Gulliver. Parce qu'on a lu les trucs, vous savez, illustrés, un peu débiles, grand, trop petit, trop grand, machin, etc. Relisez Swift, par exemple. Il y a un voyage de Gulliver qui s'appelle le voyage à Laputa. Laputa, c'est formidable. C'est Gulliver, il se trouve là, et puis il voit de long, et il s'aperçoit qu'il y a une énorme île flottante dans le ciel. Donc il est hissé dans l'île, comme ça. Il découvre une société où il y a quatre catégories de personnes. Il y a des mathématiciens, des musiciens, des domestiques et les femmes. Et les domestiques ont des grosses baudruches. Et quand les mathématiciens et les musiciens sont trop dans leur monde, ils donnent un grand coup sur la tête pour les faire revenir au réel. Mais ce n'est pas suffisant, parce que les femmes de la puta n'en peuvent plus de ces gens perdus dans leurs rêves. Donc elles font tout pour fuir l'île, pour aller trouver leur bonheur ailleurs. Formidable. Ça vous sent pensif, ça.
Non, je connaissais pas.
Lisez Swift. Bref, on revient à Voltaire. Donc, il décide d'éditer les œuvres complètes. Et là, c'est une histoire incroyable, parce que c'est interdit en France. C'est excommunié. Interdit administrativement, interdit religieusement. Donc, des histoires incroyables. Parce qu'il veut le meilleur papier, il veut des choses insensées, comme il a de l'argent, etc. Il va se ruiner complètement là-dedans. Il a une imprimerie qui se trouve juste de l'autre côté de Strasbourg, à Kiel, etc. Des histoires rocambolesques, incroyables. Ça, c'est une première entreprise. Donc, il va devenir éditeur. Et il va évidemment rien vendre de tout ça. Enfin, c'est une catastrophe. Mais si vous réussissez à avoir un exemplaire de l'édition Beaumarchais de Voltaire, avec en filigrane le plus beau des papiers, avec les lettres pharamond. Enfin, c'est une. J'en ai vu une fois à la Bibliothèque nationale. C'est absolument, absolument magnifique. Donc, il se lance dans des entreprises comme ça où rien ne compte pendant un certain temps. Pendant 2 ans, il fait ça. Et puis un autre grande aventure, c'est que il veut se faire bien voir par la Révolution. Parce qu'il est tout sauf révolutionnaire, donc, mais il se dit que bon, c'est les nouveaux maîtres, donc il faut bien se voir. Donc il se trouve qu'il y a un libraire flamand, à la suite de plein d'histoires, qui se trouve détenteur de 40 000 fusils. Alors les 40 000 fusils pourraient servir pour armer la République française, qui doit faire face à l'alliance de toute l'Europe contre les révolutionnaires. Donc il se met d'accord, il achète, mais voilà, mais les autres l'ont pas, et tout ça, etc. Les gouvernements de la Révolution changent tous les 2 mois. Donc chaque ministre veut s'occuper des 40 000 fusils pour toucher un peu de pognon sur la marge, etc. Donc il est de temps en temps porté au nu parce que c'est lui qui soutient la République nouvelle. Et de temps en temps, on dit qu'au contraire, il est allié des ennemis de la France, donc il menace... la République, et pour cette raison, plusieurs fois, il frôle la guillotine, notamment une fois, et il est sauvé par l'amour, c'est-à-dire par son ancienne maîtresse qui s'appelle Amélie. Alors là, il faut parler d'Amélie. Mais avant de parler d'Amélie, je vais parler de sa femme. Pas la femme d'Amélie, mais la femme de Beaumarchais. Et parce qu'il a rencontré, il y a une dame qui est venue le voir et qui l'a trouvé très sympathique. Et alors, ils ont vécu ensemble, ils sont mariés, divorcés, etc. Et il l'appelait la ménagère. Alors, j'entends déjà les féministes qui vont dire comment il osait pas. Alors, moi, je rends hommage à la ménagère parce que vous allez voir comment elle écrit la ménagère. Et franchement, j'ai moins besoin qu'une autre de puiser des consolations et de rechercher de l'appui hors de moi. La nature m'a donné une force, un courage, une gaieté de caractère et une sorte de philosophie routinière et d'instinct qui suffisent à tous mes besoins et me trouve préparé à tous les événements qui gâtent le présent et l'avenir. En ce qui touche les espérances pour l'autre vie, j'avoue que je ne m'en occupe point du tout. Je roule dans mon tourbillon et je ne me sens ni crainte ni désir qu'il s'arrête. Ménagère, grand niveau la ménagère, hein. Quand il voit la ménagère. Alors, en dépit, à côté de la ménagère, en même temps, parce que ce livre est la preuve que ce n'est pas celui qu'on croit qui a inventé le en même temps. Il faut bien le savoir. Je remets les pendules à l'heure de l'horloger. Il y avait une Amélie. Alors, il rencontre une Amélie quand il a 55 ans, et l'Amélie, elle a 25 ans. Et l'Amélie va le rendre chèvre. Chèvre. Et à propos d'Amélie, il aura cette phrase magnifique qui, hélas, me concerne. Ayant passé l'âge de plaire, je dois fuir le malheur d'aimer. Vous voyez le niveau. Voyez.
C'est une phrase très puissante.
Voyez l'écho. Bon, l'Amélie en question avait été la maîtresse d'un certain nombre de gens, dont un procureur. Lequel procureur avait condamné à la guillotine Beaumarchais. Donc Amélie revient voir le procureur, remet le couvert en échange d'une petite exfiltration de l'ex-amant. Laquelle Amélie va revenir au domicile de Beaumarchais, qui s'est remarié avec la ménagère, et demande à le voir en ayant appris que il va pas bien. Donc elle essaye de le voir, on lui ouvre pas, elle envoie un mot à la ménagère qui lui répond « ce n'est qu'un rhume ». On comprend la ménagère, parce que la Amélie a un verre à le bol. Et donc... Et puis le rhume, en fait, bah, il meurt 2 jours après, en 1799. Donc, c'est infini. Comprenez ? Et alors, c'est évidemment le rêve, pour pas un biographe, encore une fois, pas un promeneur, parce que des histoires, il y en a partout.
Et justement, qu'est-ce que vous avez appris, finalement, sur vous-même, peut-être, à travers ce, ce travail sur Beaumarchais ? Est-ce qu'il y a, un biographe dans le sujet qu'il choisit, il y a toujours des échos
que, alors, si je vais être franc, que je ne vais pas fuir le malheur d'aimer.
Ouais. Ça, c'est la différence. Et alors, les similitudes ?
Pardon ?
Les similitudes, peut-être ?
Ben, oui, mais enfin, oui. Toute proportion gardée, c'est vrai
toute
que...
Toute proportion gardée, mais...
C'est vrai que c'est un personnage vivant sans arrêt, qui... on en a parlé, mais... C'est vrai que j'ai une maladie terrible. Et alors, on voit, il y a des questions de névrose, puis il y a des questions de tempérament. Il se trouve que mon frère est psychiatre et a l'âme un peu triste. Et moi, pas. Et donc, il y a quand même des tempéraments, et c'est vrai, ça a toujours été comme ça. C'est que je suis hanté par une maladie qui est le nom d'un bateau de Charcot, le fils du professeur de Freud, qui s'appelle « Pourquoi pas ?». Donc, alors vous imaginez que dans la vie personnelle, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'ai un mal de chien à répondre non à la question « Pourquoi pas ?». Vous voyez ? Donc, ça ne donne pas une grande stabilité maritale, mais professionnel, c'est délicieux.
Et cette capacité à se réinventer, de Beaumarchais l'a eu toute sa vie.
Tout le temps, jusqu'à l'extrême bout. Imaginez que... Alors, pour ceux qui ont été dans l'industrie de ça, mais je découvrais des trucs incroyables, parce qu'il y a plein d'histoires. Il se balade, il est un urbain, vraiment, il aime Paris. Et il se rend compte qu'un des problèmes majeurs de Paris à l'époque, c'est l'eau. Le transport de l'eau, parce qu'il y a des porteurs d'eau, et ils disent c'est pas possible. Donc il rejoint une petite société start-up de l'époque qui se monte, il va lui apporter tout son poids financier, et il sera le premier actionnaire de la première société de distribution d'eau par canalisation et pompe à Paris. Donc Veolia, Suez sort, c'est lui. Non mais j'y peux rien, c'est vrai. Je vous assure, je peux mentir. Ça m'arrive, mais tout ce que je vous ai dit ce soir est vrai. Mais je reviendrai chez Mola si on me réinvite pour une deuxième séquence où là ça sera que des mensonges.
Merci beaucoup, Eric Orsenna.